Vous écoutez RTL.
RTL.
1305. Le roi de France, c'est Philippe le Bel. Le pape est un pape français. Il s'appelle Clément V. Il habite à Poitiers. Et le grand maître de l'ordre du temps, c'est Jacques de Molay.
La curiosité est un vilain défaut.
Le procès de Jeanne d'Arc, de janvier à mai 1431.
On l'accuse d'être hérétique, de mépriser les enseignements de Dieu.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les grands procès qui ont changé la France, c'est le dossier passionnant du magazine Ça m'intéresse, histoire en partenariat avec RTL. Et on accueille deux des journalistes qui ont composé ce dossier. Elodie Baraka, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Nicolas François, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors on va commencer par l'un de ces premiers grands procès, c'est celui des Templiers. Et là, une particularité, il a duré combien d'années ?
Il a duré 5 ans, enfin il a duré 7 ans. Il y a eu l'arrestation en 1307, la dissolution de l'ordre en 1312 et en 1314 l'exécution des tout derniers Templiers. Donc 7 ans au final.
Donc c'est 7 années de procès avec énormément de violence.
Et avec énormément d'interrogatoires assez musclés, quelques personnes brûlées vives sur le bûcher. Enfin, c'était assez sportif.
Alors on va raconter ce ou plutôt ces procès parce qu'il y en avait un peu partout en France. Mais avant, qui sont les Templiers ? Quand cet ordre est-il né déjà ?
Alors, les Templiers, ils naissent en 1119. Le contexte, c'est que les croisés sont en Terre Sainte, ont pris Jérusalem. Et il y a deux chevaliers, un qui s'appelle Hugues de Pin et Geoffroy de Saint-Omer, qui décident de créer un ordre de moines-soldats pour protéger la Terre Sainte, protéger les nombreux pèlerins qui allaient à Jérusalem, et tous les chrétiens qui allaient à Jérusalem se faisaient régulièrement dépouiller. Donc c'est une sorte de milice qui se faisait appeler les pauvres chevaliers du Christ. C'est ça.
Ouais, les pauvres chevaliers du Christ et du Temple, c'est ça. C'est pour ça qu'ils prendront le nom des Templiers. Ils se créent au début du XIIe siècle, hein, c'est ça, 1119.
C'est ça. Et ils étaient le roi de Jérusalem. À ce moment-là, les hébergent dans un endroit dont on pense que c'est l'ancien temple de Salomon, enfin le premier temple juif. Et en fait, bon, on ne sait pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, du coup, ils ont pris comme surnom les Templiers.
D'accord.
L'ordre du Temple et ensuite les Templiers.
Est-ce qu'ils sont très vite reconnus par l'Église ?
Eh ben, c'est un ordre un peu particulier parce que c'est des moines et des soldats. Donc normal.
Ce qui n'existait pas avant.
Voilà, ça n'existait pas. Il y en a eu par la suite qui s'en sont inspirés, mais le principe du moine qui porte les armes, c'est moyennement accepté à l'époque par l'Église. Et puis bon, il sollicite plusieurs entrevues. Et puis en 1139, c'est le pape Innocent II qui prononce une bulle pontificale qui officialise 20 ans après leur création, officialise les Templiers en tant qu'institution reconnue par l'Église.
Donc là, ils sont carrément sous la protection du pape.
Absolument. C'est la seule autorité qu'ils reconnaissent, c'est celle du pape.
Alors l'aventure des Templiers démarre en 1119 et c'est un ordre qui va prendre de l'ampleur au fil des siècles, si bien qu'en 1300, ils sont combien ? Très nombreux ?
Ils sont, on compte à peu près 15 000 dans toute l'Europe. Parce qu'ils ont essaimé dans toute l'Europe.
La particularité, c'est qu'ils sont très riches.
Ils sont très très riches, absolument. Ils ont beaucoup de... Ils ont une telle sympathie. Ils attirent une telle sympathie que les rois, les seigneurs leur lèguent beaucoup de terres. Il y a des gens très riches qui, quand ils décèdent, lèguent leur héritage à l'ordre du Temple. Et donc, petit à petit, ils ont accumulé énormément de biens.
Plutôt des biens donc immobiliers, des terrains ou des châteaux.
Beaucoup de biens immobiliers. Palais, ouais. Et il y a aussi tout ce que, lors des différentes croisades et des différents combats avec les ennemis, ce qu'ils ont pu piller contre les armées musulmanes à ce moment-là. Donc, ils sont reconnus notamment parce que c'est des soldats qui n'ont peur de rien, ils tuent au nom de Dieu, ils se battent au nom de Dieu, donc même quand ils sont très peu, ils sont capables de tenir des batailles extrêmement violentes, et grâce à ça, voilà, ça leur donne une aura
mais forcément cette puissance va poser problème et va ulcérer le roi.
Et oui, le roi de France.
Le roi Philippe
de France,
le Bel.
Absolument. Philippe le Bel se dit que, ces Templiers sont ennuyeux parce que, bon, c'est une sorte d'état dans l'état, en fait. C'est-à-dire que les Templiers qui sont là sur le territoire français ne reconnaissent pas l'autorité du roi, et ils reconnaissent l'autorité du pape. Donc, à ce moment-là, on a une période où la France se structure et devient, comment dire, on a les prémices d'un État moderne en France, déjà. Et donc, du coup, il est bien ennuyé, il sait qu'il va devoir agir, Philippe Lebel.
Alors, il agit. Et là, qu'est-ce qu'il décide de faire ? C'est une opération d'une très grande modernité, ce sont vos mots dans le magazine, ça m'intéresse.
C'est-à-dire l'arrestation des Templiers, c'est ça ? Pourquoi c'est moderne ?
Bah, c'est-à-dire que, d'abord, il essaye de s'introduire, d'être introduit parmi les Templiers, ça marche pas. Donc, il se dit, bon, maintenant, il va falloir sévir. C'est-à-dire que, le 14 septembre, il écrit une lettre, un amendement qui ordonne l'arrestation de tous les Templiers. Une lettre close. Et qui est distribuée à tous les baillis et sénéchaux de France. C'est-à-dire que ce sont toutes les personnes qui représentent l'autorité du roi à ce moment-là. Quand je dis que c'est assez moderne, c'est-à-dire que la manière dont la France est organisée à ce moment-là, est assez moderne. Et donc, du coup, le roi peut confier à différentes personnes en France la même mission. À côté, il y a le tribunal de l'Inquisition qui fera son travail assez efficacement. Et il y a aussi beaucoup de ruses de la part du roi aussi pour réussir à avoir les Templiers avant que le pape ne les protège.
Alors, tous les Templiers de France vont être arrêtés, ils vont être jugés. Dans un instant, on vous raconte leur procès.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Des hommes, des femmes jugés, souvent condamnés pour leur audace, leur passion, leur folie. On vous raconte ces grands procès qui ont changé la France avec le magazine Ça m'intéresse, Histoire, et deux des journalistes qui ont travaillé sur ces procès, Nicolas François et Élodie Baraka. Donc on est en plein procès des Templiers, Nicolas François. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il dure 7 ans. Ce procès, qu'est-ce qu'on réussit à leur coller sur le dos, si j'ose dire ? Quels sont les chefs d'accusation, les principaux ?
Alors, Philippe Lebel a besoin d'un prétexte. Et donc, les chefs d'accusation, c'est le reniement du Christ, l'idolâtrie, les relations homosexuelles, la sodomie, l'hérésie d'une manière générale. Donc, on leur colle énormément de choses sur le dos.
La simonie aussi, c'est quoi ? J'ai découvert ce mot dans votre magazine.
Le fait de vendre des sacrements. Donc c'est évidemment pas autorisé, mais et ça faisait partie des chefs d'accusation.
Comment va-t-il obtenir les aveux des principaux chefs templiers ? Vous nous avez parlé de torture tout à l'heure.
Oui, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez faire boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau à une personne. Vous pouvez tenter aussi le principe de l'estrapade. En fait, il s'agit d'attacher les mains dans l'eau de la personne, de la soulever. Et éventuellement de mettre des poids sur ses testicules pour être sûr que la personne soit vraiment vraiment.
Je suis sûr qu'on doit raconter des choses intéressantes.
On raconte tout ce qu'on veut, tout ce que le tensionnaire veut en fait.
Voilà, et alors soit on le fait, soit juste on le menace. Et en général, ça peut suffire. La plupart des gens qui ont été interrogés ont avoué.
Donc ce procès, évidemment, Philippe Lebel a obtenu ce qu'il voulait, même si ça a pris 7 ans, l'ordre des Templiers a été dissous. Pourquoi il fait partie des 15 procès qui ont changé la France ?
Parce que c'est le moment où le roi impose son pouvoir sur la France, c'est-à-dire qu'il le pouvoir temporel face au pouvoir spirituel, le roi contre le pape. À ce moment-là, le roi a réussi à imposer son pouvoir au pape et à être le seul maître à bord en France et sur la totalité du royaume.
On va raconter maintenant le procès de Jeanne d'Arc, Élodie Baraka. Il s'ouvre en janvier 1431. Il se déroule où ?
Alors, ce procès se déroule.
On va planter le décor.
Alors, c'est dans la chapelle royale de Rouen. Il faut se dire qu'à l'époque, c'est sous contrôle anglais. Et Jeanne arrive, elle se défend seule face à une armée, littéralement une armée inquisitrice. C'est-à-dire qu'il y a 120 juges en face d'elle, qui sont théologiens et religieux.
Que des hommes.
Et qui sont que des hommes, bien entendu, et qui sont dirigés par l'évêque.
De Rouen.
De Rouen, tout à fait. Et donc, il y a pour mission, donc, qui est un conseiller du roi anglais, et qui a pour mission de faire tomber Jeanne d'Arc.
Donc, on imagine cette jeune femme, seule, face à une armée de juges, d'inquisiteur, comme vous dites. Elle se présente, comment, est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Alors, bon, on connaît sa coupe de cheveux caractéristique, hein,
la coupe au bol.
La coupe à la Jeanne d'Arc, finalement. Et puis, elle est habillée donc comme un homme. Elle porte une tunique, un chaperon, un pourpoint, c'est une espèce de veste courte. Donc, ce qui est assez particulier pour l'époque, hein, c'est-à-dire que ça fait partie des chefs d'accusation. Le fait qu'elle s'habille comme un homme, ça contribue à la faire passer pour hérétique, finalement.
C'est-à-dire qu'elle aurait dû renoncer à ça, c'est ce qu'on voulait lui imposer, c'est ça?
On voulait lui imposer ça, et puis, bien évidemment, il y a toute l'histoire des... Elle entend des voix, on ne sait pas trop si elle entend vraiment des voix...
Ça, c'est un chef d'accusation, on lui reproche d'avoir entendu des voix. Comment elle va s'en défendre, Jeanne d'Arc?
Elle s'en défend... En fait, c'est très surprenant dans ce procès, parce qu'elle... C'est ce qui surprend aussi ses accusateurs, c'est qu'elle leur tient tête, en fait. Et tous les pièges qu'ils peuvent lui tendre, elle réussit à les déjouer. Alors qu'on pourrait se dire, enfin, elle a grandi dans une famille paysanne, sans éducation, outre l'éducation très religieuse, on pourrait croire qu'elle aurait été littéralement défaite, en fait, en face de ces 120 hommes. Et en fait, pas du tout. Et elle va réussir à déjouer leurs pièges systématiquement. Par exemple, j'ai un exemple, quand on lui demande si elle pense être en grâce de Dieu, elle sait que c'est un piège. Si elle répond oui, ça veut dire que c'est péché d'orgueil. Si elle répond non, c'est renier le fait que les voix soient divines. Donc, elle va répondre si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y laisse. Et en fait, elle déjoue littéralement à chaque fois les pièges qu'on peut lui tendre au cours du procès.
Donc, vous nous décrivez une femme avec beaucoup de réparties, Jeanne d'Arc.
Énormément de réparties, énormément de foi, parce qu'elle est restée campée sur sa foi tout du long. Pour elle, elle était dirigée par ses voix, et quoi qu'il en advienne...
Mais ce procès, il dure longtemps, elle doit se défendre pendant longtemps face à ses inquisiteurs.
Ça dure trois mois.
Et elle reste seule,
Elle se sera toujours défendue seule. Ouais.
À l'issue du procès, on va lui donner un choix. Quel choix, Élodie Baraka?
On lui donne le choix.
Elle choisit sa sentence, presque, ce qui est assez étonnant.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on peut dire que le procès est quand même joué d'avance, parce que les Anglais veulent sa tête, quoi qu'il arrive. On lui donne un choix, on lui dit... que si elle ne renonce pas à son habit d'homme, elle ira au bûcher. Et l'évêque la met face au bûcher. Et donc, bon, face au bûcher et à la peur, qui finalement, la peur d'être brûlée vive, elle accepte de
renoncer à ses habits d'homme.
De renoncer à ses habits d'homme. Et en échange d'une sentence d'emprisonnement à vie dans une prison d'église gardée par des femmes. Donc là-dessus, il y a un accord qui est réglé avec l'évêque, sauf que en fait, elle est trahie et on la renvoie en habit de femme dans ses geôles anglaises. Là, elle est emprisonnée avec des hommes. Elle se fait, alors on ne sait pas si elle a été violée ou victime de tentative de viol, mais elle reprend immédiatement après son agression, elle reprend ses habits d'homme. Et alors là, c'est parjure, donc elle finit au bûcher.
D'accord, donc en fait, elle a choisi sa mort et elle a choisi la fin de son histoire, Jeanne d'Arc.
Elle a choisi,
en quelque sorte.
Tout à fait.
Et elle meurt donc sur le bûcher le 30 mai 1431. Tout de suite, une autre femme. On va faire un saut dans le temps. Vous avez l'habitude dans la curiosité. On a notre machine à voyager dans le temps. On part à l'époque de la Révolution française, assister au procès de Charlotte Corday. À tout de suite, les curieux.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
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 Qu'est-ce que vous y connaissez?
Qu'un homme est mort de ce que vous avez raturé sur le papier.
Et alors?
Nous vous conduirons à l'échafaud, vêtus de la chemise rouge, de celles qui ont tué leur père, puisque Marat était le père de la patrie.
La curiosité est un vilain défaut.
La justice s'occupe d'accuser.
Vous causez-vous de mourir, de votre clan?
Revenons à ce qui nous occupe, voulez-vous?
Et mes amis girondins, les enverrez-vous à la mort?
Nous n'en sommes pas là!
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le procès de Charlotte Corday joué au théâtre, c'est l'un des grands procès qui ont changé la France. On en parle avec le magazine Ça m'intéresse, histoire, en partenariat avec RTL et deux des journalistes qui ont travaillé sur ces procès passionnants, Nicolas François et Élodie Baraka. Alors là, vous nous emmenez dans la Révolution française. On a tous en tête ce tableau de Jacques-Louis David, vous savez, peint en 1793, où on voit, c'est la mort de Marat. Donc on voit le révolutionnaire, il est dans son bain, il a une lettre dans une main, une plume dans l'autre, il est mort, évidemment. Comment est-il mort ce 13 juillet 1793?
Alors il est mort, poignardé dans son bain, par Charlotte Corday.
Qui est-elle ?
Charlotte Corday. Qui est-elle ? Alors, Charlotte Corday, c'est une enfant issue de l'aristocratie pauvre, qui a grandi à Caen, qui vient de Caen, l'aristocratie, mais elle a des convictions profondément républicaines. Alors, un peu de contexte historique pour comprendre, il faut dire qu'à l'époque, on est dans une France très divisée et vraiment qui se déchire. C'est-à-dire qu'il y a une guerre civile, la révolution s'est passée, il y a des régions qui se soulèvent parce qu'elles sont profondément royalistes. Donc à l'intérieur du pays, on a une guerre civile. À l'extérieur du pays, en Europe, il y a toutes les monarchies qui sont unies pour faire la guerre à cette France républicaine. Donc c'est vraiment le bazar. Ça va pas très bien. Et en plus, politiquement, au sein des républicains, il y a une scission qui est qu'il y a les Girondins qui sont les républicains modérés, on va dire, et les Montagnards qui sont les républicains extrémiste, un petit
donc
peu plus radical.
Charlotte Corday, elle est côté girondin.
Charlotte Corday, elle est girondine, et enfin plutôt d'opinion girondine, parce qu'à l'époque, les femmes politiques, ça n'existait pas vraiment, mais elle allait aux réunions des Girondins, on va dire. Et Marat, lui, c'est un petit peu le leader, un des représentants, le grand porte-parole des montagnards de l'époque.
Comment Charlotte Corday va s'introduire chez Jean-Paul Marat ? Ça paraît fou qu'elle puisse entrer comme ça et assassiner cet homme important.
Elle vient à plusieurs reprises. Elle frappe d'abord à la porte de la gardienne qui dit il est pas là, il faut revenir plus tard. Et puis elle croise la cuisinière et elle finit par s'introduire chez lui. Il est dans son bain. Elle dit j'ai vraiment quelque chose de très important à discuter avec lui. J'ai un entretien à passer avec lui. Il faut absolument que je lui parle.
C'est une époque où on parlait autour des bains.
C'est une époque en fait. Il était très souvent dans son bain. La particularité, il souffrait de quelque chose qui s'apparente un peu à l'eczéma ou au psoriasis, il me semble. Du coup, la seule chose qui le soulageait, c'était les bains. Donc, c'était pas le bain pour se laver. Il passait vraiment énormément de temps.
Et donc, il avait l'habitude de recevoir des visiteurs dans son bain.
Il avait l'habitude de recevoir. Mmh. Donc, il a fini par cette jeune fille qui vraiment voulait parler de la République. Il a fini par la recevoir dans son bain. Et c'est là où, seule en entretien avec lui, elle l'a poignardé.
Pourquoi elle choisit Marat comme cible ? Qu'est-ce qui va inspirer ? Pourquoi c'est important
pourquoi
pour elle
Marat ?
De tuer Marat ?
Parce que Marat est le visage de... Donc il n'est pas le seul leader des Montagnards, il y a aussi Robespierre, mais c'est le visage, c'est le porte-parole, c'est un très bon orateur. Il a ce côté... C'est son discours, c'est lui qui est le visage de tout ça. Il est journaliste, il a un journal, l'ami du peuple, c'est par lui que passent les messages. Et donc pour elle, c'est lui qui est la raison de la terreur. C'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine, qui est le catalyseur de tout ça. La terreur.
C'est-à-dire que les condamnations et les mises à mort ont commencé. La terreur a commencé. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut l'arrêter. Elle veut stopper la terreur en temps marin.
C'est-à-dire qu'au début de la République, donc il y a les Girondins qui ont le pouvoir, et puis il y a eu un basculement au printemps 93. C'est les Montagnards qui ont pris le pouvoir. Et là, il y a vraiment commencé cette espèce de... Il y avait des massacres, quoi. Tout ce qui était du sang bleu était susceptible d'être littéralement saigné, quoi.
Donc, en assassinant ce montagnard, Jean-Paul Marat, Charlotte Corday se dit je vais empêcher une dictature, je vais sauver des milliers de Français. Elle est arrêtée par la police le 13 juillet 1793, emmenée devant le tribunal révolutionnaire quelques jours après. Et là, elle va pas vraiment s'exprimer directement, elle va lire une lettre qu'elle a préparée.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a... Donc le procès au départ, donc l'audition commence par des témoins. Donc la cuisinière dont on parlait tout à l'heure, la gardienne de l'immeuble, la compagne de Marat, qui tous l'ont vue, ils savent très bien qu'elle était là. On l'a arrêtée, elle était là, elle attendait qu'on l'arrête. Elle ne nie rien, aucun des témoignages à charge, elle dit c'est vrai, systématiquement, elle est là pour faire passer un message. Et quand on lui donne la parole, c'est son avocat qui lit une lettre qu'elle a écrite à son père. Et je vais vous lire un passage de cette lettre. C'est « J'ai tué un homme pour en sauver 100 000. Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien d'innocentes victimes. J'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran. » Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'elle voit en Marat un tyran. Et elle se sacrifie pour aller faire le sacrifice. Elle a 25 ans, elle sait très bien que c'est fini, elle va être arrêtée, elle sait très bien ce qui l'attend. Elle se sacrifie pour le peuple.
Et donc elle fait de son procès une tribune.
Exactement, exactement, exactement. Parce qu'elle pense que ça va être l'occasion d'expliquer son geste, d'expliquer pourquoi elle pense que Marat est un tyran.
Et que les Montagnards prennent la mauvaise route.
Et que c'est une mauvaise route et que la République va à sa perte dans ce sens-là. Mmh. Et
elle
pense qu'en faisant son sacrifice, le message passera. Ouais. Elle est condamnée même face à la guillotine. Elle est droite, elle est face à la guillotine. Bah,
racontez-nous la sentence, c'est quoi? Donc c'est la peine de mort, la guillotine mort, pour Charlotte Corday.
Guillotine. Donc encore une guillotinée de plus dans cette période de terreur.
Comment elle se comporte le jour de
très dignement. C'est-à-dire que d'après les témoignages, d'après les rapports de cette journée-là, très dignement, elle fait face à la guillotine. Elle demande même à y être présentée et elle y perd sa tête.
Et c'est ça qui va énerver le public, parce que vous parlez d'une sorte de public un peu énervé, parce qu'il y avait un public à l'époque, on assistait aux exécutions et à la guillotine.
Mais c'est-à-dire qu'en fait...
Pourquoi? Est-ce qu'elle n'a pas peur de la mort? C'est ça qui...
Mais en fait, ce qui énerve qui le public, surtout, en fait, c'est là le grand échec du sacrifice de Charlotte Corday, c'est qu'en fait, ça n'a pas du tout l'effet escompté. Et au lieu de réveiller les consciences des foules, elle s'en attire les foudres, et Marat, au lieu de passer pour le tyran, passe pour le martyr. Et c'est pas elle qui passe pour la sacrifier, c'est vraiment Marat qui passe pour la martyr. Et suite à cet assassinat, c'est complètement l'effet inverse de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle voulait qui va se passer. C'est-à-dire que la terreur va s'intensifier. Les montagnards, cette fois menés par Robespierre, vont lancer une vraie chasse, mais même cette fois politique. C'est-à-dire que ça va être l'occasion de faire aussi la chasse plus seulement au sang des aristocrates qui ont pu oppresser le peuple pendant toutes ces années, mais aussi aux oppositions politiques. C'est-à-dire que c'est
donc
vraiment
leur,
la chasse
à leurs ennemis politiques et notamment aux Girondins, c'est
et
ça ?
Et notamment aux Girondins.
Parce qu'on pense que c'est eux qui ont en fait comploté pour tuer Marat. On a du mal à croire que c'est...
Alors, c'est-à-dire qu'on a du mal, on a du mal à croire qu'une femme... Et puis, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'elle était pas, enfin, elle était girondine dans l'âme, mais pas officiellement, parce qu'on a du mal à croire officiellement à l'époque qu'une femme puisse vraiment penser par elle-même sans être...
Oui, puis agir seule en plus, c'est ça qui est...
Et agir seule, complètement seule, parce qu'elle agit littéralement seule. Et alors, on ne sait pas si on pense vraiment... ou juste officiellement, si on se sert de ça, qu'elle a été téléguidée par les Girondins. En tout cas, c'est l'argument que les montagnards utilisent pour se débarrasser de leurs opposants girondins. C'est de dire que c'est eux qui sont derrière le crime.
On aime bien vous poser cette question. Encore une fois, ce procès de Charlotte Corday, pourquoi il est emblématique? Pourquoi il a changé le visage de la France?
Il a changé le visage de la France parce que pendant encore un an après ça, ça a catalysé la terreur, en fait. Donc cette période qu'on connaît dans l'histoire comme étant vraiment une des époques sombres, très très sombres de notre République, ça a littéralement été accéléré par l'acte, entre guillemets, qu'elle pensait héroïque de Charlotte Corday, parce qu'en fait, elle a accéléré les massacres. Et donc, je crois que jusqu'en 94, au total, on a compté 300 000 guillotinés. En tout cas, c'est d'après une historienne qui a écrit la biographie de Corday. 300 000 guillotinés sur toute la Révolution.
Un dernier mot sur son procès, son exécution. Que fait-on de sa tête ensanglantée après qu'elle ait été coupée? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous le racontez dans le Ça m'intéresse.
Elle est souffletée, vous dites?
Souffleté.
C'est-à-dire que les gens le...
Exact, oui, exactement. On la gifle. Ouais, tout à fait. On la gifle.
Donc on comprend bien comment la propagande montagnarde a réussi à transformer finalement ce qui était un acte politique en un atout pour lancer la terreur.
Dans un instant, on vous raconte deux autres procès. Ils se sont déroulés au XXe siècle. Deux grands pas pour l'humanité. La dépénalisation de l'avortement et l'abolition de la peine de mort en France. On se retrouve juste après les infos.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Pensez-vous être condamné ou pas?
J'espérais être laxé, mais enfin, j'avais quand même très peur d'être condamné. Ce que j'en pense, c'est que c'est formidable.
La curiosité est un vilain défaut.
Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez?
Bien sûr que je recommencerai. Pour toutes les femmes.
Jusqu'à 22h.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
La mise en onde de notre réalisateur André Facetta nous projette en 1972, à l'heure d'un de ces procès qui a marqué l'histoire de France. 15 procès qui ont changé la France, c'est le thème du dossier de Ça m'intéresse Histoire en partenariat avec RTL. Les journalistes Élodie Baraka et Nicolas François nous les racontent. Alors que se passe-t-il au palais de justice de Bobigny? On est en région parisienne, novembre 1972. Qui juge-t-on?
Eh bien, on juge Michel Chevalier.
Dont on a entendu la voix à l'instant.
Absolument, on a entendu la voix à l'instant. En fait, c'est la mère d'une jeune fille, la mère de Marie-Claire Chevalier, 17 ans, qui a subi un avortement après un viol. Et la jeune fille Marie-Claire Chevalier est passée au tribunal des mineurs. D'ailleurs, elle a été relaxée. Et ensuite, maintenant, c'est le procès de Michel Chevalier pour complicité, puisque c'est sa mère qui l'a aidé à trouver la praticienne, qui est d'ailleurs également à ses côtés dans le box des accusés, ainsi que deux amies, deux militantes pour la dépénalisation de l'avortement.
Alors, l'avocate de ces femmes, c'est Gisèle Halimi, et elle veut profiter de ce procès, pourquoi ? Pour faire une tribune, pour prôner la dépénalisation de l'avortement ?
C'est ça. En fait, elle en a marre. Elle voit tout le temps... régulièrement des affaires comme ça, elle va dans des tribunaux où des jeunes femmes sont jugées pour ce qu'elles ont fait de leur corps, et ça l'ennuie d'autant plus que ce sont toujours des femmes de conditions modestes, c'est toujours les pauvres, jamais les riches qui vont au tribunal. Les riches, elles se font avorter à l'étranger, elles arrivent à avoir les fonds pour aller à l'étranger se faire avorter là où c'est autorisé. Elle veut dénoncer la loi qui interdit l'IVG, qui peut mener en prison les femmes qui subissent une IVG. Et donc pour ça, elle va utiliser ce procès comme une sorte de grande tribune. Il y aura le jour de l'ouverture du procès, il y a des centaines de militants qui sont dehors et qui manifestent, militants et militantes féministes qui manifestent. Il y a Michel Rocard qui vient témoigner, Simone de Beauvoir, Aimé Césaire qui également beaucoup d'intellectuels qui s'engagent.
Elle amène à la barre de ce procès des personnalités évidemment qui n'ont rien à voir l'affaire en question, avec Michel Chevalier ou sa fille de 17 ans.
Qui à l'époque est terriblement...
Ils viennent dire quoi ? Elles viennent dire quoi, ces personnalités ?
Et les personnes viennent témoigner de leur attachement à la liberté de la femme et viennent à leur tour dénoncer l'hypocrisie en fait ambiante qui fait que voilà, ces choses-là arrivent tous les jours.
Et alors, elle transforme vraiment le procès en tribune, Gisèle Halimi, et elle fait en sorte que la salle d'audience, elle est trop petite. Il y a tellement de gens qui veulent assister.
C'est ça,
il y a des haut-parleurs. Et on entend ce qui se dit à l'intérieur de la salle, à l'extérieur, et c'est même retransmis parfois à la radio. Elle transforme vraiment cette audience en tribune, là aussi, politique.
Oui,
parce que c'est une action politique.
Absolument, c'est-à-dire que elle sait très bien que si elle ne fait pas ça, ça sera juste une affaire de plus qui sera classée, que les gens vont regretter. Mais à un moment, elle est consciente qu'il faut frapper fort, et c'est là le génie de cette femme, en plus de ça, dans son incroyable éloquence, dans cette plaidoirie qui va émouvoir tout le monde. Et plus elle sera diffusée, plus elle sera évidemment touchante et marquante.
Le procès bascule le 8 novembre 1972. Gisèle Halimi, l'avocate, va plaider pour la relaxe de ces femmes. Je vous lis un extrait de sa plaidoirie parce que c'est un texte magnifique. Messieurs, ce jugement de relax sera irréversible. Et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous sommes mises en marche.
C'est... Elle se fait... prophétesse de la dépénalisation de l'IVG qui arrivera quelques années plus tard.
Le verdict, c'est la relaxe.
Le verdict, c'est que la praticienne est condamnée à un an de prison avec sursis, donc elle ne va pas en prison, et Michel Chevalier est condamné à 500 francs d'amende, et les deux autres sont relaxés. Donc disons que c'est des peines qui sont relativement clémentes, mais l'essentiel, c'est pas vraiment le verdict. L'essentiel, c'est d'avoir pu porter cette question dans le débat public,
d'avoir sensibilisé l'opinion publique.
Absolument.
Ça a marché.
Alors ça a marché, c'est-à-dire qu'en tout cas ça a convaincu le président Giscard, puis et sa ministre Simone Veil de faire voter ça, et donc ça a convaincu aussi une partie de l'Assemblée nationale qui a voté la dépénalisation de l'avortement
en janvier 1975.
Et dans un climat très houleux, mais ça c'est une autre histoire. Absolument. On se souvient des images de Simone Veil face à une assemblée très très majoritairement masculine et pour certains très majoritairement hostiles également.
On peut lire dans le Ça m'intéresse, histoire qui est passionnant, cet autre procès avec Robert Badinter, bien sûr, qui va partisan de l'abolition de la peine de mort et qui va livrer une plaidoirie absolument émouvante. Mais ça, c'est à découvrir avec 15 autres procès dans le Ça m'intéresse, histoire. Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Merci.
De rien.
Bonsoir.
Vous écoutez RTL.